autorité et puissance. Alors, autorité et puissance, c'est détonateur, hein? Dynamos, le Saint-Esprit, c'est fantastique. J'aimerais bien vous citer une réflexion de Jesse Penn-Lewis qui déclare ceci: « À part le péché, la principale condition pour que des esprits mauvais soient à l'œuvre chez un être humain est la passivité. Nous ne pouvons attendre de Dieu qu'il nous protège des influences démoniaques si nous ne prenons pas une part active à la stratégie qu'il a élaborée. » Et donc la passivité spirituelle nous conduit dans le mur, spirituellement parlant. Nous avons à être actifs, nous sommes des soldats du Christ. Pourquoi ? Enfin, des soldats du Christ, soit équipés, soit non équipés, peu importe, il y en a qui sont peut-être comme au club Met sans équipement spirituel, et devant l'adversaire, ben, il n'y a pas photo, comme dirait l'autre, on prend des risques, nous prenons des risques. Imaginons un soldat qui dirait « Notre pays est une grande puissance militaire, tant sur terre que sur la mer ou dans les airs. Notre force de frappe est la plus performante au monde. Pourquoi devrais-je m'embêter à porter un casque, à monter la garde ou à apprendre à me servir d'une arme? C'est bien plus agréable de rester au camp pendant que les chars et les avions font la guerre. » Seulement, quand les troupes ennemies s'infiltreront, qu'est-ce qui se passera ? Ce sera une des premières personnes à être tuée. Il n'aura même pas de casque, il n'aura pas d'armure, il n'aura aucune protection. Et ce sera une des premières personnes qui va être touchée. Ça va être une cible très facile. Et voilà, donc ce sont les chrétiens qui ne se protègent pas, qui ne vivent pas dans la connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de vision, faute de connaissance de la part de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, si nous ne méditons pas, si nous n'écoutons pas la parole, si nous ne recevons pas des enseignements, des instructions de la part de Dieu, comment est-ce que nous pourrons tenir? Comment? L'ennemi ne va pas vous laisser comme ça, hein? Ne croyez pas que nous allons nous en sortir si facilement. L'ennemi agit, il attaque et nous avons à être vraiment avec le Seigneur, en accord avec lui, pour être fort et ne pas permettre que les stratégies de l'ennemi nous fassent tomber, nous fassent chuter, nous détruisent la vie et détruisent la vie des gens qui sont autour de nous. Au contraire, nous voulons être sauvés et travailler à notre salut avec crainte et tremblement de cœur et permettre au plus grand nombre qui se trouve autour de nous d'être sauvés également. C'est la volonté de Dieu qu'aucune personne ne soit perdue, d'accord, hein? Et alors, je crois que c'est tellement important de réaliser que l'autorité et la puissance du chrétien dépend de celui qui possède l'autorité et la puissance, qui la délègue. Nous dépendons de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Dieu, qui a la puissance et l'autorité. Dieu a toute autorité et toute puissance et il veut déléguer cela à son Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église, a dit Jésus. La délégation suppose un pouvoir conféré dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu si nous appartenons au Christ. Hein, c'est comme un cercle, si nous n'appartenons pas au royaume de Dieu, c'est-à-dire au règne de Dieu, mais nous sommes en dehors de ce cercle. À ce moment-là, nous sommes dans ceux pour qui Jésus est en train de prier. Et l'Église prie aussi. Les anges travaillent en faveur du salut de ceux qui doivent hériter de la vie éternelle. Je crois que c'est important d'entrer dans le royaume de Dieu. Comment est-ce qu'on rentre dans le royaume de Dieu déjà? Il y a deux choses importantes. La repentance et la foi. Se repentir de ses fautes et croire, la foi. Deux choses importantes. Hein, il y a un verset que tout le monde doit connaître dans Romains, chapitre 10, verset 9. Hein. Quiconque confesse le nom du Seigneur et croit dans son cœur que Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts sera sauvé. Il faut croire dans son cœur. Il faut confesser de la bouche que le Seigneur Jésus-Christ est revenu de la mort. Il est vivant. Il est vivant. Et s'il est vivant, il est vivant dans votre cœur par la foi. Par la foi. Il convient de se soumettre aux lois qui régissent ce royaume. Si nous sommes dans un royaume, il y a des lois. Ben oui, ici, il y a un roi. Roi Philippe, Mathilde, la reine. Et bien sûr, il y a des niveaux de pouvoir dans un État. Il y a les ministres, il y a le gouvernement. Il y a trois systèmes de pouvoir, vous connaissez tout cela. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Trois niveaux de pouvoir séparés, ça c'est un État de droit. Trois niveaux de pouvoir. Et bien sûr, nous devons respecter les autorités, c'est très important. Et il y a un respect de ces lois dans le royaume de Dieu également. Première chose, Jésus a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Jésus a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Alors, quelques versets pour nous rappeler cette autorité que Jésus a et possède. Matthieu, chapitre 7, verset 29. « Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. » Au temps de Jésus, les scribes citaient des auteurs, des gens qui avaient analysé les Écritures, des rabbins renommés, on avait consigné tout cela dans des livres, de Talmud, etc. Mais Jésus parlait avec l'autorité du Père. Il enseignait comme ayant autorité. Luc 4, verset 36, « Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Ils commentent avec autorité et puissance aux esprits impurs, ils sortent. Ils commandent avec autorité et puissance. Vous voyez, l'autorité et la puissance est dépendante de l'autorité. Et Jésus avait l'autorité et il chassait des esprits impurs avec puissance. Vous voyez, c'est tellement important. Et ils sortent. C'est pas comme s'ils commandaient et qu'il n'y a rien qui se passe. Mais ils obéissaient parce qu'ils devaient obéir, il n'y avait pas d'autre solution. Colossiens chapitre 2 verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef, la tête, il est au-dessus de toute domination et de toute autorité. Jésus, ce n'est pas simplement le Dieu d'une religion appelée chrétienne. Alors chacun suit sa propre religion et tout le monde est bon et tout le monde il est gentil. Mais on voit dans le texte biblique que Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui domine, celui qui en est le chef, il est la pièce maîtresse, il est le souverain. Il est au-dessus de toute autorité, de toute domination. Luc, au chapitre 4, verset 14, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandue dans tout le pays d'alentour. Il avait été baptisé par Jean, il avait été baptisé, il y avait l'Esprit qui était venu sur lui dans la plénitude. Il était revêtu de puissance, il avait l'autorité de son Père. » Et il avait la puissance, toute la puissance de l'Esprit qui était sur sa vie. Luc 4, verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole ? Ils commentent avec autorité et puissance aux esprits impurs. Ils sortent, nous l'avons vu. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et il a fait, bien sûr, opérer des miracles divers. Alors, le deuxième point, c'est que Jésus a détruit la puissance que le diable avait sur nous. Ça, c'est important. De voir qu'il a reçu toute autorité. C'est lui le chef, qu'il est au-dessus de tout, et il a détruit une autre puissance. Parce que faudrait pas oublier qu'il y a des puissances contraires. Les puissances des ténèbres, Jésus dira au jardin de Gethsémané, c'est maintenant l'heure est venue pour les puissances des ténèbres. Quand on venait le chercher pour aller le traduire devant le souverain sacrificateur et aller vers la croix, c'était les puissances des ténèbres qui étaient là. Il y a toute une hiérarchie aussi. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes, toute une armée qui est contre nous. Mais Jésus a détruit la puissance que le diable avait sur nous. Il l'a détruit. Alors, on peut voir dans Hébreux chapitre 2, verset 14, ceci. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a participé à la chair et au sang. Il est venu, il s'est incarné, il a vécu sur cette terre. » Et à la croix, par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a anéanti son pouvoir, il a anéanti sa puissance, il lui a ôté les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Il lui a ôté sa puissance. Comme disait un chant, il a perdu son rang. Colossiens chapitre 2, verset 13. « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. » C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Il a annulé le document qui nous accusait. Toutes les lois de Dieu qui étaient contraires à notre vie parce que nous n'avons pas vécu de manière parfaite. Jésus, lui, il a vécu une vie parfaite. C'est sa perfection qui nous est donnée. Il s'est assimilé à nous en mourant sur la croix. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Victime expiatoire pour tous ceux qui croient en son nom. Il est devenu la victime et il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. La certitude, la justification. Il a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a désarmés. Les autorités et pouvoirs spirituels des ténèbres ont été désarmés. Il n'a plus aucun pouvoir. Le diable n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui met sa vie en règle avec Jésus-Christ, qui vit pour Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, les pouvoirs des ténèbres n'ont aucune puissance, aucune. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ et qui doutent et qui sont incrédules, il en a encore. Nous devons quitter ce lieu d'incrédulité et de doute pour entrer dans une vie de foi qui glorifie Dieu. Il n'y a pas d'autre solution que d'être sauvé par la foi. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, parce que nous ne serons jamais justifiés par nos œuvres. Nous ne pourrons pas dire à Dieu, « Oui, mais j'ai peut-être pas eu beaucoup de foi, mais j'ai fait du bien à plein de gens. Tu n'as pas vu tout ce que j'ai quand même fait, donc tu dois quand même m'accepter. » Ça, c'est une position qui n'est pas correcte bibliquement. C'est par la foi. C'est une grâce de la part de Dieu, le salut. On n'est pas sauvé par nos œuvres, par tout ce que nous pourrions faire, mais simplement par une confiance dans le tout accompli de la croix. Une confiance totale, C'est ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous rendre compte qu'il a acquis une victoire totale pour nos vies et qu'il a désarmé les autorités, les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son fils, traîné derrière lui dans la poussière, un serpent ancien. Nous avons l'assurance d'une délivrance totale, l'assurance d'une délivrance totale. Colossiens chapitre 1 verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous appartenons au royaume du Fils. Nous sommes complètement en lui. Et il nous a délivrés totalement de la puissance des ténèbres. Acte 26, 18, ce que Dieu voulait faire de Paul, il lui a dit que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, de la puissance du diable à la puissance de Dieu. Parce que Dieu est plus puissant que le diable. Il a triomphé sur les œuvres du diable. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, par la foi, c'est uniquement par la foi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Par la foi. Par la foi. Troisième point, il délègue son autorité à ceux qui s'approchent de lui par la foi. Il veut déléguer son autorité. Il veut nous donner son autorité. Non seulement Jésus a l'autorité, et c'est bien de le savoir, mais c'est bien aussi, et c'est encore plus extraordinaire, de savoir qu'il nous délègue cette autorité. Il nous donne cette autorité à ceux qui s'approchent de lui par la foi. Alors, il y a plusieurs conditions. Premièrement, qu'on puisse naître de nouveau. La nouvelle naissance est nécessaire pour avoir l'autorité du Seigneur dans nos vies. Est-ce que vous voulez, ce matin, avoir l'autorité de Jésus dans vos vies?
Oui.
Amen. Il vous l'a donné à partir du moment où vous êtes né de nouveau. Il disait ceci à Nicodème, Jésus, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si un homme ou une femme, un jeune, peu importe, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau, ça fait penser au baptême. Le baptême, ça fait penser au baptême de repentance. Et je le disais tantôt, la repentance, l'Esprit nous est donné par la foi. L'Esprit Saint nous est donné par la foi. Quand nous croyons, nous pouvons recevoir l'Esprit. Donc l'eau nous fait penser à la repentance et l'Esprit nous fait penser à la foi. Nous sommes sauvés par la repentance. C'est comme ça qu'on entre dans le salut, dans le royaume de Dieu, par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la nécessité de la soumission à l'autorité du Christ. Nous devons nous soumettre à Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième condition, nous soumettre, nous mettre sous sa main. Est-ce que nous sommes soumis à Dieu ou nous en faisons à notre volonté? Quelle volonté cherchons-nous à accomplir? Est-ce que nous pouvons croire que nous voulons finalement accomplir la volonté de Dieu et ne pas réaliser cela de cette manière. Se soumettre à l'autorité du Christ. Éphésiens au chapitre 5, verset 21. Il est dit ceci, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » C'est d'abord à Christ qu'on se soumet, et puis on se soumet les uns aux autres. Ça, pourquoi? Parce qu'on doit toujours voir les autres comme étant plus grands que nous. Et celui qui veut être grand parmi nous, qu'il soit le serviteur des autres. C'est ça, être grand devant Jésus. Tu veux être grand, eh bien, peut-être nettoie les WC, peut-être. Sois le serviteur de tes frères. La chair n'aime pas ça. Hein. C'est justement parce que la chair doit être brisée. Parce que la chair ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu. elle ne le peut même pas. Donc il faut mourir à soi-même. La chair doit mourir parce que si c'est votre chair qui domine en vous, vous ne pouvez accomplir que les œuvres de la chair. Ce ne sera pas les œuvres de l'esprit que vous allez accomplir si il n'y a pas de mort à soi-même. C'est tellement important. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur comme l'Église se soumet au Christ. L'Église se soumet au Christ. Jacques, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Le diable ne fuira pas loin de vous si vous ne vous soumettez pas à Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous voulez que l'ennemi fuit loin de vous, vous devez vous soumettre à Dieu. Sans soumission, il n'y a pas d'autorité. L'autorité n'existe et n'est donnée que pour ceux qui se soumettent. Vous savez, même le Fils se soumet au Père. Il s'est soumis en toutes choses à son Père. Et nous ne sommes pas plus que lui. Si lui s'est soumis à son Père, combien nous devons nous soumettre à Dieu et à Jésus. La soumission. Attention, 2 Timothée, chapitre 2, verset 26, dit ceci. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le diable a une volonté aussi. Soit on se soumet à Dieu, ou soit on est soumis au diable. C'est terrible, parce qu'on n'est même pas conscient dans ce cas-là, dans l'aveuglement de nos péchés, nous ne comprenons pas qu'il y a des personnes qui peuvent être, on a été captifs du plan de l'adversaire, on a été pris dans des pièges du diable, mais faisons attention qu'en tant que chrétiens, nous pouvons retomber dans des pièges et de nouveau être soumis au plan de l'adversaire. Terrible ça. Parce qu'il est fort, il est puissant, il ne faut pas croire que je suis plus puissant que lui par ma force. Je ne peux avoir d'autorité que si je suis soumis à Dieu. Si je ne suis pas soumis à Dieu, je suis quelqu'un de vulnérable aux stratégies de l'adversaire. Donc, je dois vraiment faire attention, pour se dégager des pièges du diable, il faut se soumettre à Dieu. Il faut déjà se repentir, venir avec une attitude de foi, de désir d'obéir, de repentance, de soumission, afin d'éviter cette soumission à la volonté du diable et de rentrer dans le plan de Dieu et de se soumettre à Dieu. Troisième chose, la nécessité de recevoir la volonté de Dieu par révélation. On ne peut pas avoir d'autorité si on n'est pas né de nouveau. D'autorité spirituelle. C'est impossible, ça. Si on n'est pas né de nouveau, on n'a aucune autorité spirituelle. On n'a pas d'autorité spirituelle si on ne sait pas se soumettre. C'est impossible. Dieu ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. La gloire doit revenir à Dieu. Dieu ne donnera pas sa gloire à qui que ce soit d'autre. Et donc, nous devons nous soumettre à lui. Et la troisième chose, c'est la nécessité de recevoir la volonté de Dieu par révélation. Parce que l'autorité est donnée à ceux qui reçoivent une révélation de la part de Dieu. Paul travaillait par révélation. Il avait reçu la révélation de la part de Dieu. Il ne s'était pas fait apôtre. Il ne dit pas, moi je suis un apôtre, je pense que mes talents font que je discerne chez moi ma capacité de devenir apôtre. Non, il avait reçu ça de la part de Dieu. Il avait été instruit directement par le Seigneur. Il avait reçu des paroles puissantes de la vie. Et il parlait avec puissance parce qu'il avait de l'autorité. Et l'autorité venait de Dieu. Ce n'est pas une autorité fabriquée. Ce n'est pas une autorité fabriquée. Colossiens chapitre 4 verset 12 dit ceci, Epaphras qui est des vôtres, c'est Paul qui le dit, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc il faut d'abord être persuadé et pleinement persuadé de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Sinon, nous sommes instables et nous ne savons pas trop quoi. Si nous ne savons pas la volonté de Dieu, quelle autorité avons-nous? Et puis, une fois qu'on la connaît, nous devons persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et nous devons travailler ce point-là qui, pour la plupart des chrétiens, n'est pas accompli en général. Bien recevoir la volonté de Dieu par révélation. C'est vrai que la parole de Dieu nous a été donnée. Nous n'avons rien à ajouter ni à retrancher de la parole de Dieu. D'accord ? Dieu ne va jamais nous dire autre chose qui se trouve dans la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour nous enseigner, pour redresser, pour éduquer, pour instruire dans la justice, afin que tout homme, toute femme de Dieu soit instruite et soit capable de connaître le plan de Dieu pour sa vie et d'accomplir son ministère, son service pour le Seigneur. La volonté de Dieu doit nous être révélée pour que nous soyons porteurs de l'autorité du Christ. Paul disait, j'ai reçu du Seigneur, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu de la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous a parlé? Comment Dieu nous a instruits? Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie? Je pense que c'est important, cette autorité-là vient de ce que Dieu a créé dans notre vie. L'homme nouveau créé dans notre vie est porteur d'autorité. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dans les choses nouvelles, Dieu nous appelle à connaître, à le connaître, lui. C'est la vie éternelle, hein, le connaître. Qu'il nous connaisse et que nous le connaissions. Nous vivions en intimité. Quand nous sommes en intimité, il peut se révéler. Et donc, nous devons vivre avec lui et recevoir de sa part. Et c'est en ce sens que nous avons de l'autorité. Ce n'est pas prendre un titre pour dominer sur les autres. Dans la société, il y a beaucoup de gens qui cherchent les titres, les honneurs, et qui veulent dominer sur les autres, prendre peut-être le pouvoir sur les autres, chasser ceux qui sont au pouvoir et prendre leur place. Allez voir dans les élections et toutes les magouilles qui se passent derrière. Et vous verrez qu'on veut prendre la place des autres. On veut prendre le pouvoir. On veut user d'une société sur une autre pour avoir le monopole, pour être plus haut que les autres. Mais ce n'est pas comme ça dans le Seigneur et dans le corps de Christ. L'autorité du Seigneur n'est pas donnée de cette manière-là. Quatrième point, ceux qui reçoivent l'autorité du Christ reçoivent également sa puissance. Non seulement il nous donne son autorité, mais il veut aussi nous donner sa puissance. Et il y a une nécessité de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, nous voyons quelques versets à ce sujet-là. Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il disait cela alors qu'il était encore avec eux, il allait retourner vers le Père. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur l'église, sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Des flammes sont venues au-dessus d'eux. Il y a eu un grand vent, un tremblement, ça a été extraordinaire, un grand vent qui a soufflé. Et Dieu a envoyé son esprit. Il les a revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. La puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 1er verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, dynamos, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et le baptême du Saint-Esprit, c'est être vraiment rempli, immergé par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez fait cette expérience? Est-ce que vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit sur vos vies, si vous n'avez pas reçu la puissance du Saint-Esprit, alors il vous manque quelque chose d'important. Comment est-ce que vous pourrez exercer l'autorité spirituelle sans avoir reçu le Saint-Esprit, reçu la puissance du Saint-Esprit dans vos vies? Cinquième point, il convient d'utiliser notre autorité avec la puissance qui lui est associée. Notre autorité doit être assistée de la puissance de Dieu. Ça, c'est important aussi. Il faut d'abord savoir que nous avons de l'autorité en Christ et savoir que la puissance du Christ est associée à cette autorité. C'est une autorité que nous n'avons pas en nous-mêmes. L'autorité, un policier qui règle un carrefour, qui est au milieu du carrefour, c'est pas parce qu'il s'appelle monsieur je ne sais pas comment, il n'a pas aucune puissance, aucune autorité par lui-même. Cette puissance ne vient pas de lui. Il est simplement un représentant de l'autorité supérieure. Il représente les autorités. L'autorité qu'il délègue dans sa fonction de policier. Et c'est pourquoi il a une autorité que nous devons respecter. De toute façon, nous devons respecter tout être humain sur la terre, hein, et prier pour tous les hommes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il représente une autorité. Et nous n'avons pas l'autorité en nous-mêmes, par nous-mêmes, mais elle nous est déléguée. Nous sommes représentants de cette autorité. John Reynolds reçut un jour du Seigneur, « La prière est bonne et nécessaire, mais elle ne prendra pas la place de l'autorité. Je te donne autorité sur toute la capacité de l'ennemi et je m'attends à ce que tu l'utilises. » Je m'attends à ce que tu utilises cette autorité. La plupart du temps, les chrétiens n'utilisent pas. Ils ne savent même pas qu'ils en ont une. Ils n'utilisent pas leur autorité. Et ils n'ont pas de puissance. C'est triste. Dieu a donné l'autorité à l'Église. Et l'Église doit se revêtir de son autorité, bien le savoir, bien le comprendre, et exercer la puissance qui se manifeste par cette autorité. Daniel Yoder écrit dans son livre « Malédictions non brisées » que Dieu lui révéla un jour de réclamer à Satan ce qu'il nous a volé en utilisant l'autorité de son fils. « C'est le problème avec mon peuple. Satan lui vole ses biens et il vient vers moi pour pleurer. Mon peuple s'attend à ce que je remplace ce que Satan a pris. J'ai envoyé mon fils sur la terre pour mourir afin que tu aies l'autorité sur Satan. » Jésus t'a dit qu'il te donnait toute autorité sur les puissances des ténèbres. Mes prophètes et apôtres ont écrit de ma part que tu es héritier avec mon fils. Tu es dans une position de règne sur Satan. Tu me répètes que tu sais que Satan est un voleur. Maintenant, je te le dis, lève-toi et ordonne au voleur de te rendre cette fois tout ce qu'il t'a volé. Prends autorité sur lui. Tu as autorité sur le diable. Pourquoi est-ce que c'est lui qui dominerait sur toi? Le missionnaire brésilien Soares dit dans son livre « Exigez vos droits ». Aucune arme que l'ennemi lance contre votre vie ne supportera votre réprimande faite avec foi au nom de Jésus. Les puissances des ténèbres savent qu'elles ne peuvent résister à celui qui est accroché à la vérité éternelle et décide de faire usage de son autorité. Les puissances des ténèbres le savent, mais est-ce que nous le savons? C'est pour ça qu'il y a des stratégies de l'ennemi qui maintiennent les gens dans le mensonge. Et les gens ne savent pas la puissance qu'ils ont, ils ne savent même pas qu'ils effrayent le diable, ils sont eux-mêmes effrayés par l'ennemi. Et ils n'osent rien entreprendre parce que ça leur fait tellement peur. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas leur position assis dans les lieux célestes. Nous avons vu cela. Et ils ne connaissent pas ni leur autorité, ni leur puissance. Ils vivent une vie insipide, une vie sans victoire, une vie d'échec. Ils vivent peut-être d'échecs vers une victoire, en escomptant obtenir sans doute quand même quelques victoires. Il y a quelques victoires de temps à autre. Et Dieu veut nous faire aller de victoire en victoire. André Womack dit « Dieu nous a déjà fourni sa puissance de guérison et il l'a placée à l'intérieur de chaque croyant né de nouveau. Elle est sous notre autorité et c'est à nous de la libérer. » Si nous n'exerçons pas notre autorité et ne devenons pas des commandants plutôt que des mendiants, la puissance de Dieu ne sera pas libérée. Nous avons besoin d'un changement radical de nos pensées sur ce problème. Comprendre et utiliser notre autorité est la clé pour voir des miracles se produire. Je le répète, comprendre et utiliser notre autorité est la clé pour voir des miracles se produire. Dieu a choisi de ne pas violer notre volonté. Dieu a choisi de faire couler sa puissance à travers nous. Dieu ne nous oblige pas. Hein. Si nous ne voulons pas comprendre, si nous ne voulons pas saisir les clés qui vont nous rendre puissants, c'est notre problème. Ce n'est pas le sien. Il nous a donné sa parole. Alors, apprends-toi à laisser, mais prenons tout ce qu'il nous a donné. Parce que c'est les clés pour notre avenir, c'est les clés pour notre présent, c'est les clés pour nos victoires, présentes et futures. Luc, au chapitre 9, verset 1er, « Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. » Voilà ce qu'il nous a donné. Il leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. C'est ça que Dieu nous a donné. Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance de l'ennemi. Acte 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Jean et Pierre étaient devant le temple et il y avait un boiteux devant le temple, à la porte appelée la belle, et il mendiait. Et Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais au nom puissant, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé. D'un bond, il a marché, il a sauté, il a couru, il a glorifié Dieu dans le temple. Et tous les scribes, légalistes devaient se dire, mais que fait-il cet homme? Mais lui, il était tellement transporté par la joie non seulement du salut, mais de la guérison que Dieu avait opérée dans son corps. Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Non seulement il enseignait, il donnait la version de la parole de Dieu, l'Ancien Testament, qui attestait que Jésus est le Christ, et confondait les Juifs dans leur enseignement. Et il se bouchait les oreilles, il lui tapait des pierres, parce qu'il ne voulait plus rien entendre. Mais qu'est-ce qui se passait par ses mains? Il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple, il était plein de grâce et de puissance. Romains, chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'Évangile est une puissance de salut pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec comme nous. Une puissance de salut. L'Évangile, une puissance de salut. Romains 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Vous voyez, c'est des choses douces aussi. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement des miracles, des choses grandioses, mais c'est aussi à l'intérieur de nos vies. C'est l'espérance, c'est la joie, c'est la paix dans la foi. C'est abonder en espérance au milieu des épreuves, de l'adversité. C'est avoir tout ça à l'intérieur. à l'intérieur de nous, parce que c'est puissant aussi. Dieu, il travaille dans la douceur et dans l'intérieur de nos vies, par la puissance de son Esprit Saint. Hein, parce que certains pourraient dire, et moi là-dedans, moi je... parce que bon, c'est vrai qu'on ne voit pas des miracles tous les jours et on a besoin de consolation, on a besoin d'être réconforté, on a besoin d'être guéri, certains intérieurement, émotionnellement, psychologiquement, certains ont besoin d'être rassurés, certains ont besoin d'avoir une espérance renouvelée, une force, des forces à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'est tellement là que Dieu veut aussi agir. Romains 15, verset 19. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins, c'est Paul qui disait cela, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ par la puissance des miracles et des prodiges. Parce qu'il annonçait la parole, mais il y avait aussi les signes qui attestaient la vérité de sa parole, de la parole. C'est ce que Jésus faisait dans tout son ministère. Il apportait une parole et il disait aux paralytiques, hein, tes péchés te sont pardonnés, mais afin que vous sachiez que j'ai la puissance, que le Fils de l'homme a la puissance de pardonner les péchés, afin que vous le sachiez, je te le dis, homme, lève-toi et marche. Hop, le paralytique se levait, il prenait sa natte et retournait chez lui. Afin d'attester la parole, parce que la parole vient de son Père. Il ne faisait que d'accomplir et de dire ce qui venait du cœur du Père. En Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, qui n'ont pas la foi. » C'est une folie, ressemble à rien. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà l'évangile, la prédication de la croix, la prédication de la foi, de la croix. Elle est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu. Est-ce que vous avez été touché par la parole de vérité, par la parole de la croix, par la prédication de la croix? Dieu veut nous sauver. C'est une puissance de salut. L'évangile est une puissance de salut contre l'enfer, contre les dominations. Les autorités ne peuvent rien contre cela. C'est une folie pour ceux qui périssent, qui veulent maintenir leur position dans l'incrédulité, mais... Dieu se révèle aux humbles, aux enfants. Dieu se révèle à ceux qui ont un cœur ouvert. Soyons des Lydies. Vous savez, Lydie, cette femme qui, au bord d'une rivière, a reçu l'évangile parce que son cœur était prêt. Son cœur était ouvert quand Paul a annoncé l'évangile dans la ville de Philippe. Oui, son cœur était prêt et elle a reçu. Et ça a été une puissance qui a changé, transformé sa vie, comme tous ceux qui ont été transformés parmi nous. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 24. Et ça, on pourrait peut-être aller vérifier, si vous voulez bien. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 23. Verset 22 déjà, hein. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Voilà, le Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, dernier verset. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui empêche que tu sois puissant? Nous allons prier quelques instants.